Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis, votre émission qui explore les ordres et désordres du monde. Bonjour Eric, aujourd'hui c'est la direction de l'Afrique que nous prenons dans cette émission de Géopolis.
Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous. Effectivement, direction le Soudan aujourd'hui. Le Soudan, immense pays d'Afrique situé au sud de l'Égypte, bordé également par le Tchad et l'Éthiopie, et au sud par le Sud-Soudan, ancienne province devenue souveraine en 2011 après une longue guerre d'indépendance. Un pays d'un peu plus de 3 fois la France en superficie pour une population d'un peu moins de 50 millions d'habitants.
Un pays immense, vous dites, à l'histoire tumultueuse.
Oui, ancienne colonie anglaise, le Soudan est devenu indépendant formellement en 1956, une indépendance immédiatement bousculée des tensions avec les provinces du Sud, entraînant quasi immédiatement une sanglante guerre civile. Le Soudan a également connu plusieurs coups d'État, dont celui de 1989, lors duquel le général Omar el-Béchir s'impose et met en place un régime militaro-islamiste. Il restera au pouvoir à Khartoum pendant 30 ans jusqu'en 2019, 30 ans pendant lesquels il a fait régner sur le pays un véritable climat de terreur, imposant notamment une application particulièrement rigoriste de la charia. Le pays devient même un temps un sanctuaire de terroristes. Ben Laden, notamment, y trouve refuge au début des années 90. Le pays va également connaître, sous son règne, plusieurs épisodes de crise humanitaire particulièrement tragiques.
Une situation humanitaire pendant des années particulièrement dramatique dans l'ouest du pays, dans la région du Darfour notamment.
Oui, Thomas, au début des années 2000, une crise déjà latente au Darfour débouche sur une véritable guerre qui va être attisée par le régime d'El-Béchir qui attise les tensions ethniques locales. Cette guerre, elle aurait fait, selon certaines sources, près de 300 000 morts et un peu moins de 3 millions de réfugiés sur une population de la région, je le rappelle, de 7 millions d'habitants. La MINUAD, une force militaire conjointe de l'ONU et de l'Union africaine, a envoyé 27 000 hommes sur place depuis 2007 pour tenter de pacifier la région. Elle y est toujours.
Alors c'est aussi sous le règne d'Omar el-Béchir que les provinces du Sud, largement délaissées par le pouvoir à Khartoum, vont obtenir l'indépendance.
Oui Thomas, en plus du conflit du Darfour, le Soudan a été déchiré pendant des décennies par un long conflit avec ses provinces du Sud. La population du Sud-Soudan reprochait notamment au régime de Khartoum de délaisser la province et de capter ses ressources, notamment en hydrocarbures. C'est en 2011 que la région va finalement obtenir son indépendance.
Lueur d'espoir dans ce contexte particulièrement compliqué, le régime d'Omar el-Béchir chute en 2019 suite à une forte mobilisation de la jeunesse.
Oui, en 2019, la population se soulève au Soudan et au terme de plusieurs semaines de mobilisation parvient à faire tomber le régime d'El-Béchir, accusé en outre de crimes contre l'humanité par la CPI pour sa responsabilité dans les exactions commises par son régime au Darfour. Une transition va bientôt se mettre en place, mais les civils ne prennent qu'en partie le pouvoir, l'armée veillant à conserver une influence très large sur les nouvelles institutions qui se mettent en place. Les tensions étaient nettes depuis longtemps. Dans ce régime partagé donc entre civils et militaires, elles vont finir par éclater au grand jour quand en octobre dernier, en octobre 2021, un coup d'État militaire ourdi par le chef de l'armée, le général Al-Bourhan, va sonner la fin de l'aventure. La pression internationale va obliger l'armée à lâcher du lest, mais malgré une nouvelle et impressionnante mobilisation de la jeunesse soudanaise, l'expérience démocratique semble largement compromise.
Sur ce sujet, sur la situation actuelle du Soudan, Ulrich, vous avez pu interroger Alice Franck. Alice Franck est maîtresse de conférence à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. On écoute l'interview, mais avant cela, une pause musicale.
دمك يسيح انهار ملاح Bien de retour dans l'émission Géopolis sur E-Radio, où nous parlons aujourd'hui du Soudan, un pays qui connaît un contexte politique notamment très, très agité. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Madame Alice Franck. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Alice Franck, vous êtes maîtresse de conférences en géographie à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Vous êtes notamment spécialiste du Soudan. Alors après le départ d'Omar El-Béchir, le dictateur soudanais, en avril 2019, le pays paraissait sur la bonne voie avec la mise en place d'un gouvernement civil dirigé par une figure respectée, Abdallah Hamdok. Le Soudan a-t-il considérablement changé après ces 3 ans de régime civil?
Oui, le Soudan a changé au sens où la chute d'Omar El-Béchir mettait fin, enfin du moins on le pensait, à 30 ans de règne sans partage d'un régime militaro-islamiste qui avait pris le pouvoir en 89. Donc presque 30 ans d'une dictature sévère. Je me permets de revenir un tout petit peu sur la figure d'Abdallah Hamdok et de la chute de Béchir, puisque c'était quand même un régime de transition qui est arrivé dans la violence quand même, suite à une répression sanglante qui a eu lieu en juin 2019. Face à cette répression sanglante des révolutionnaires, un régime de transition s'est mis en place avec à sa tête Abdallah Hamdok, effectivement une figure respectée du Soudan, qui est revenu d'exil pour diriger ce gouvernement de transition, mais de transition pour une durée de 3 ans en partage avec les militaires. C'était pas tout à fait une démocratisation, on va dire, directe, et c'est pas non plus le premier régime de transition qui se voit écourté au Soudan. Mais le Soudan, en ce sens, a changé depuis 2019, au sens où il y a eu une ouverture politique, même si la crise économique a mis en difficulté ce nouveau régime et la transition économique.
Voilà, alors justement, vous parliez des mobilisations populaires qu'avait entraîné la chute d'Omar El-Béchir et ces soulèvements, cette mobilisation qui continue encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, d'agiter le Soudan. On va bien sûr y revenir, mais avant cela, est-ce que vous pourriez nous dire, d'après vous, sur quels aspects a connu le régime de transition, qui, on le voit, a tourné court, a connu le plus de succès pendant ces 3 années, la démocratisation, la relance des relations normales avec la communauté internationale, qui, on le sait, avait longtemps considéré comme le pays, comme un état paria.
Je dirais que les succès ont été compliqués ou difficile à voir ou peut-être à observer. Bon, il y a d'abord ce grand changement après 30 ans d'un même régime. Il faut voir que les choses sont complexes et longues à changer, mais donc il y a quand même un changement de paysage politique qui va s'opérer avec une diminution du rôle des partis traditionnels qui ont eu du mal à re-rentrer dans le jeu face à une mobilisation d'une jeunesse et puis de nouveaux mouvements, de nouveaux groupes, les forces de la liberté du changement, l'association, la SPA, la Sudanese Professional Association, qui ont du coup très largement marqué, on va dire, le jeu de la transition. Et je dirais que si ce n'est pas, en tout cas, une démocratisation à l'échelle nationale, on va avoir, en tout cas, un nouveau paysage politique qui se déploie avec une reconnaissance du rôle de la jeunesse, avec une reconnaissance de la démocratie locale dans les quartiers, avec la mise en place de comités de résistance qu'à l'échelle des quartiers urbains et également dans l'ensemble du pays. Donc, c'est peut-être là qu'il y a eu le plus de changements. Et puis, peut-être revenir sur les tentatives, elles aussi longues et douloureuses, et qui ont été plus ou moins respectées, mais des tentatives de répondre aux demandes en matière de justice, et du coup de répondre aux demandes de justice des citoyens, de mettre en accusation un certain nombre de dirigeants, d'hommes politiques, qui avaient pu bénéficier et faire beaucoup d'argent lors du régime précédent. Donc, il y a eu l'ouverture d'une commission dédiée pour la liquidation des affaires de Lingaz, Lingaz étant le nom du régime précédent, qui a été mis en place de façon lente et pas toujours extrêmement efficace, mais ce sont deux points sur lesquels je pense que c'est intéressant d'insister.
Mais on était encore tout à fait au milieu du chemin hein, dans cette justice de l'ancien régime. Hein.
Oui, on était qu'au début et du coup, le coup d'État vient de porter un terme hein, un petit peu à cette tentative de réponse hein, à cette demande de justice. Hein. Mais c'est quelque chose sur lequel des processus avaient été engagés.
Alors, il y a un domaine, par contre, où cette transition a connu, vous nous le direz, hein, mais je crois, un échec, c'est la transition économique qui s'est avérée particulièrement complexe et rendue évidemment encore plus difficile par le contexte. Hein. Alors, il y a évidemment la période du Covid hein, et puis il y a d'énormes inondations qui avaient affecté, il y a quelques mois, près de 500 000 personnes. Hein.
Oui, alors justement, et je n'ai peut-être pas répondu à votre question précédente, alors je vais en profiter pour faire le lien sur la relance à la fois économique et la relance des relations internationales. On va dire que effectivement le contexte économique soudanais est très compliqué depuis la séparation du Soudan du Sud qui a eu lieu en 2011 et où le pays a perdu la plupart des revenus pétroliers qui sont, puisque les réserves pétrolières sont pour la plupart situées au sud. Donc ça a mis le pays dans une grande difficulté économique que ne sont pas venus contrecarrer, on va dire, ces tentatives de réorientation, notamment sur du minier artisanal et notamment l'or, puisque le pays est devenu un grand acteur d'or en l'espace d'une dizaine d'années. Donc, de grosses difficultés économiques qui ont été bien sûr renforcées par le contexte international de la Covid. Donc, on va dire que de ce point de vue-là, les Soudanais n'ont pas eu de chance, mais aussi, et je viendrai peut-être là-dessus sur la communauté internationale, donc la relance des relations avec la communauté internationale, elles se sont aussi accompagnées, on va dire, d'une demande de réforme en matière économique, de forme d'austérité, hein, comme à son habitude, pour de demandes de réforme économique nécessaires, mais qui conduisent à des austérités, à une austérité très, très difficile à supporter pour des populations dont l'économie est déjà à genoux. Et donc, si la communauté internationale, effectivement, s'est rapprochée, on va dire, du régime de transition, on ne peut que déplorer le fait que l'accompagnement d'une transition démocratique, que les réformes économiques, finalement, qui sont demandées au pays, ne soient contrecarrées par des mesures venant faciliter, on va dire, la reprise de l'économie.
On vit plus mal au Soudan aujourd'hui qu'il y a qu'à la fin du régime d'El-Béchir ?
Oui. On vit plus mal, mais on vivait mieux au Soudan dans les années 2006-2007, quand le pétrole coulait à flot. On vivait mieux au Soudan avant la séparation du Soudan du Sud. Depuis, les conditions économiques se sont largement dégradées hein, et elles se sont également dégradées après la chute d'Omar al-Béchir. Mais cette chute était déjà, ces difficultés économiques étaient déjà amorcées, si vous voulez. Et elles sont aussi à l'origine du soulèvement, même si ce soulèvement a été très rapidement politique. Hein. C'est aussi l'économie qui a fait tomber Omar al-Béchir, en quelque sorte.
On dit que dans ces trois ans de transition, Madame Franck, il y a aussi eu une tendance de l'élite, de l'ancienne élite militaire, de mettre des bâtons dans les roues du gouvernement de transition, et notamment de son premier ministre civil. On part notamment du blocage hein, de cette grande voie d'accès au Soudan, qui est Port Soudan, qui aura été bloqué pour rendre encore plus difficile la tâche du gouvernement et cette relance économique.
Oui, à toutes les échelles, je pense que les caciques du régime, que ce soit en fait le gouvernement de transition, hein, le poids des militaires hein, dans l'économie du Soudan va se trouver renforcé en fait par la chute d'Omar el-Béchir et par sa gouvernance hein, du gouvernement de transition. En fait, donc ils sont les anciens caciques, on va dire que les élites politiques et économiques du Soudan sont effectivement très liées et qu'elles conservent l'essentiel des ressources hein, et à tous les niveaux, les anciens du régime et notamment les branches, on va dire, islamistes hein, de l'ancien régime vont compliquer le travail du gouvernement de transition et notamment de sa partie civile. C'est-à-dire que ça va être à la fois dans la dégradation d'un certain nombre de situation économique, mais également dans, on va dire, la montée. J'ai été très frappée lors de mon séjour au Soudan en août dernier d'une certaine montée de l'insécurité quotidienne. Tout le monde parle du fait que Khartoum devient moins sûr, alors que jusque-là, c'était une capitale très sûre, avec de nombreux agressions. Voilà, en tout cas, on parle du fait que l'ancien cacique du régime organise aussi la diffusion de cette idée que l'insécurité est grandissante et vont trouver toutes les raisons possibles pour effectivement mettre des bâtons dans les roues dans l'ensemble des réformes engagées par la partie civile.
Alors, vu le contexte que vous nous décrivez, hein, ces 3 ans de transition particulièrement compliqués, j'imagine que ce coup d'État qui est intervenu fin octobre 2021, où les chefs militaires ont repris le pouvoir, ça vous a tous sauf étonné, hein.
Non, alors, ça ne nous a pas étonnés. C'était très tendu. De savoir quand est-ce que ça allait arriver ou si ça allait arriver, c'est toujours... moi, je ne suis pas très forte en prospective. Hein. Donc, voilà, pour vous dire, ça nous a quand même un peu pris de court puisqu'on avait l'Université de Paris 1 et Paris 8 et l'Université de Khartoum. Nous avons lancé un programme de recherche sur la révolution le 23 octobre, donc quand même juste 2 jours avant le coup d'État, pour dire que si la situation était effectivement extrêmement tendue, c'est toujours très compliqué de pouvoir prédire ce type d'événement quand même.
Alors on dit beaucoup que l'Égypte, les autorités égyptiennes ont été très impliquées dans ce coup d'État, c'est très net selon vous ?
Alors, il y a effectivement beaucoup de rumeurs ou d'informations qui désignent, notamment en ce moment, l'Égypte comme un soutien, comme un coupable de cette évolution. Bon, l'Égypte est un soutien des militaires soudanais de longue date. Hein, on est aussi, c'est un des soutiens du régime classique, hein, avec l'Arabie saoudite. On est aussi en Égypte dans un gouvernement militaire avec un poids, on va dire, encore peut-être plus fort en Égypte qu'au Soudan, de l'appareil militaire dans l'économie du pays. Donc l'Égypte a suivi ça de près et est probablement tout à fait ravie de l'évolution que prend l'État soudanais actuellement.
Mais alors, ce que l'élite militaire n'avait peut-être pas prévu non plus, c'est que comme elle l'avait fait en 2019, quand a été renversé l'ancien dictateur Omar el-Béchir, la population des jeunes en majorité sont massivement sortis dans les rues, hein, bravant une répression féroce et ont posé beaucoup de difficultés à ce régime militaire. Hein.
Oui, je pense que c'est un des points sur lesquels il faut insister, hein, qui est que c'était pas si évident, hein, le coup d'État militaire s'était tendu, on savait que potentiellement ça pouvait arriver, mais par contre les difficultés économiques étaient telles que la population paraissait tout à fait penser à autre chose que faire la révolution, hein. Et le coup d'État a aussi montré ça, a montré que, aussi critiqué qu'il l'était, hein, par la population juste avant, Abdallah Hamdok a été très rapidement, immédiatement réaffirmé comme le Premier ministre, et les gens sont sortis dans la rue pour dire, ce gouvernement civil, peut-être qu'il n'arrive pas à tout, mais en fait c'est le gouvernement que nous avons choisi et c'est le gouvernement pour lequel on s'est battu et on veut qu'il revienne au pouvoir. Donc il a été très rapidement, les gens sont sortis dans la rue pour réclamer le retour d'Abdallah Hamdok et réclamer aussi l'idée de dire, on ne veut pas être à nouveau sous une dictature militaire, puisque Béchir avait cette double en fait appartenance, hein, c'était également un militaire, donc c'était un régime militaro-islamiste, il faut pas l'oublier, hein. Et donc les gens en ont marre et sont les jeunes notamment ont eu une réaction extrêmement forte et immédiate face au coup d'État. Et ils subissent depuis maintenant plusieurs mois des assauts répressifs extrêmement forts et qui sont plutôt de plus en plus forts, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de retenue, hein, dans la répression qui est menée à l'égard de jeunes, mais de très jeunes. Les morts sont extrêmement jeunes, hein, ils ont entre 16 et 25 ans. Voilà. Et qui continuent de faire pression sur l'armée pour réclamer le retour à un gouvernement démocratique.
On a une idée du nombre de victimes. Vous parlez des morts et des blessés depuis ce nouveau coup d'État d'octobre.
Oui, elles sont comptabilisées par notamment ces comités de résistance, par les comités notamment aussi de l'Union des médecins soudanais. Et on est autour de quasiment 70 victimes depuis le 25 octobre.
Alors, vous l'avez dit, hein, l'armée a été contrainte de lâcher du lest, remettre en place le Premier ministre, mais bon, on l'imagine, il avait les mains tout à fait liées et a fini par démissionner début janvier. Ça pouvait pas marcher, hein, cet attelage très, très complexe.
Non, là, c'est devenu... Alors, c'était à la fois... effectivement, les militaires ont eu l'air d'être un peu coincés, donc avec les pressions internationales, on a remis Hamdok, mais finalement Hamdok était dans une situation complètement intenable avec la poursuite des mouvements populaires. Donc il a fini, mais c'est une grosse perte, je pense, pour la transition soudanaise. À la fois, ça clarifie les choses, c'est maintenant le peuple, ou en tout cas, c'est les jeunes et les mobilisés contre les militaires, et à la fois, c'est le retour à une négociation beaucoup plus difficile ou à des affrontements beaucoup plus frontaux.
C'est quoi l'état d'esprit avec les retours que vous pouvez avoir de vos contacts sur place, l'état d'esprit de la population face à cette situation ?
Alors, c'est deux choses. C'est à la fois la colère, hein, d'être une nouvelle fois embarqué dans une dictature, colère qui est aussi aggravée par la présence, la très forte présence de non pas seulement des militaires, mais aussi de ce qu'on appelle des rapid super forces, qui sont en fait des Janjaweeds, donc la présence d'un des hommes forts du Conseil souverain, hein, qui accompagne Burhan, qui est Emiti, qui a une force, en fait c'est une ancienne milice utilisée au Darfour, qui a été ensuite intégrée, institutionnalisée dans l'armée soudanaise, mais qui est très présente à Khartoum actuellement, et qui est très présente dans les opérations de répression des jeunes dans la rue, et qui est très largement mise en accusation par la population. Donc voilà, c'est très tendu, les gens sont révoltés de ça, et puis bien sûr une certaine usure, parce que voilà, en ce moment, il y a des manifestations tous les jours quasiment, et il y a toujours des morts, même si c'est pas énormément, petit à petit le nombre croît, l'économie est à genoux, mais le pays non plus ne fonctionne pas normalement, hein, puisque les ponts sont bloqués. Voilà, il y a à la fois aussi une certaine usure de la population.
On risque d'avoir, c'est finalement une dictature à deux têtes, hein, si je vous entends bien.
À deux têtes entre Abdel Fattah el-Burhan et Hemiti.
Oui, tout à fait, oui.
Tout réside dans leur capacité à gouverner ensemble. Mmh. Et on va dire qu'un des espoirs, c'est aussi que les dissensions au sein de l'appareil sécuritaire soudanais se fassent jour.
Alors, je voudrais, Madame Franck, vous proposer ici de revenir sur la situation. On en parle moins, mais au Darfour, hein, qui est cette région de l'ouest du Soudan et qui a longtemps été marquée par une guerre au bilan humain catastrophique, mais avait évidemment disparu des radars depuis quelques années. Depuis le 25 octobre, là aussi, la situation semble avoir de nouveau dégénéré sur place. Les affrontements dans la région ont fait 200 morts et plusieurs centaines de blessés. Près de 83 000 auraient dû fuir leur foyer, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Ça aussi, c'est quelque chose auquel, malheureusement, heureusement, vous vous attendiez. Et est-ce que c'est lié à ce qui se passe à Khartoum ?
Oui, alors c'est très largement lié, sans aucun doute. Alors peut-être dans les succès, hein, du gouvernement de transition dont je n'ai pas parlé avant, c'était d'abord dans les demandes des révolutionnaires, il y avait une demande pour la paix. la paix dans le pays, qu'il y a eu si peu depuis son indépendance en 1956. Donc la paix au Darfour, paix fragile, avec un certain nombre de groupes rebelles, avait été, on va dire, l'un des succès depuis la mise en place de cette transition. Donc la situation au Darfour reflambe. D'abord, le coup d'État militaire du 25 octobre dernier. Dans ce coup d'État militaire sont impliqués un certain nombre de mouvements rebelles du Darfour, qui ont choisi du coup le côté des militaires, ce qui complique encore, on va dire, la situation politique du Darfour, mais aussi la situation politique et, on va dire, la situation sécuritaire à Khartoum et ailleurs dans le pays. Et puis, bien sûr, le fait que Hemeti soit aujourd'hui un homme fort de Khartoum et du Darfour, puisque Hemeti est originaire du Darfour, peut être à l'origine d'un certain nombre de la montée des violences à l'ouest du pays.
Il y a un gros risque d'escalade, selon vous, de retour à la guerre, dont je l'ai dit, le caractère avait été véritablement tragique.
Alors, la prospective, comme vous avez pu le voir, c'est pas je suis pas la meilleure, mais un risque d'escalade, c'est certain. Vu la prise de position, pas eu la position, on va dire, de Hemeti et la prise de position d'un certain nombre de groupes rebelles du Darfour pour le coup d'État militaire, la situation qui n'était pas complètement pacifiée est très inflammable.
Alors les Occidentaux, c'était pas mal investi quand même dans la transition du Soudan. Quelle est leur position aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont encore très présents sur le terrain pour essayer de, j'ai envie de dire, entre guillemets, de sauver ce qui peut l'être?
Je sais pas si je suis tout à fait sur la même ligne que vous l'investissement des Occidentaux dans la transition. Je pense que la reconnaissance qui se passait à un mouvement révolutionnaire au Soudan a été extrêmement long. Je pense que les Occidentaux ont aussi très largement tendance à vouloir serrer la main des hommes forts. Donc l'ensemble des démocraties occidentales sont allées serrer la main de Hemeti, l'ancien Janjaweed, chef de milice, sans que ça pose aucun problème à personne. Alors bien sûr, on soutient la démocratisation, mais on ne soutient pas, on va dire, réellement financièrement un pays dont on sait que s'il a une chance d'évoluer vers la démocratisation, il va lui falloir des investissements massifs venant contrecarrer l'état de l'économie actuelle et, on va dire, l'effondrement lié aux réformes d'austérité qui sont demandées par le FMI, la Banque mondiale, etc.
L'Occident n'a pas su saisir la chance que constituait cette transition, cette révolution pacifique pour permettre à ce pays de sortir par le haut.
N'a pas su ou n'a pas voulu, je ne sais pas comment ça s'articule. Oui, je pense que les situations, on va dire, de stabilité politique, même quand ce sont des dictatures, on s'en accommode relativement bien.
Oui, il n'y a qu'à regarder chez les voisins du Soudan pour en avoir la malheureuse confirmation. Bon, je vous remercie très chaleureusement, Madame Franck, d'être revenue pour nous sur cette situation du Soudan, malheureusement un petit peu trop éloignée de nos écrans radars en ces temps de pandémie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, je rappelle donc que vous êtes maîtresse de conférence en géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste notamment du Soudan. Merci encore d'être intervenue sur nos ondes.
Je vous remercie. Au revoir.